ajouter 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1, hyper simple. 11h30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
Ah, les tomates farcies, mais oui, c'est la saison. Bien le bonjour, les amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour la 4e année de la table des bons vivants. Merci en passage pour votre belle fidélité et vos messages. Bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Notre mission ne change pas. Alors, c'est la rentrée, mais on va continuer à voir du pays ce samedi. On va faire un tour sur un marché en Bretagne dans un instant. Nous allons prendre des nouvelles aussi des huîtres du bassin d'Arcachon et nous allons débattre autour de la folie des burgers. Le chef Yannick Aleno sera même des nôtres. Voici mes bons vivants de la rentrée. Affûtés comme ses couteaux, il partage avec nous ses coups de fourchette. Le bistronome en chef Yves Condebord est là. Bonjour Yves.
Bonjour, vous êtes gentil pour le mot affûté, mais l'été a été, je dirais, un peu gras.
Mais c'est le t-shirt noir, on ne voit pas, vous voyez. Ça amincit, il ne faut pas dire ça.
Moi aussi je suis en noir, vous aurez remarqué.
Oui. L'heure des vendanges approche. Il est prêt à repartir sur les routes, réviser ses cépages. Olivier Pouls est avec nous.
Bonjour Laurent.
Bonjour Olivier.
Mais vous inquiétez pas, j'ai profité de tout l'été pour réviser.
Mais bien oui, je vous fais confiance.
Il n'y a pas de pause.
Et nous allons partager un plat du jour exotique avec l'auteur, réalisateur Maurice Barthélémy sur les coups de midi. À table. Alors, vous connaissez notre rituel. Posez-vous la même question, tiens, en voiture ou à la maison. Quel est votre goût de la semaine? Il est peut-être conjugué avec celui de la fin des vacances et le début de la rentrée. Cher Yves Condebord, votre goût de la semaine?
Eh bien, mon goût de la semaine, c'est une confiture que je me suis préparée. Une confiture avec les reines Claude. On est en pleine saison. Elles sont bien mûres. Et c'est le moment de faire de la confiture. Alors, j'adore la reine Claude pour une raison, c'est qu'il y a une belle acidité. Et surtout, quand je fais la confiture, je mets que 10% de sucre. Parce qu'elle est goûteuse, elle est juteuse. Et après, elle a cet équilibre d'acide sucré qui me permet bien sûr de la manger sur une panna cotta, un accompagnement de riz au lait ou même tout simplement dans un yaourt. Mais aussi, en salé, j'adore l'accommoder avec du fromage bleu.
Oh, c'est joli ça.
Roquefort et confiture de reine Claude bien acidulée, c'est un joli petit mariage.
Elle est assez liquide alors du coup, si vous mettez peu de sucre, j'imagine ou...
Non. Ah, non, parce
elle prend quand même
Ouais. J'ai donné toutes les astuces. J'ai donné la recette de A à Z sur le site des bons vivants. Et non, je mets un peu de pectine.
Voilà.
Je remets un peu de pectine,
voilà,
juste
d'accord.
Pour qu'elle ait une certaine tenue.
Olivier Pouls, votre goût de la semaine, camarade.
Je vous en ai apporté, je suis passé au marché ce matin à vous en prendre, les amis. C'est une mozzarella. Mais la mozzarella est un des produits les plus galvaudés qui soit. C'est très difficile d'en trouver de la bonne. Et celle-là vient directement d'Italie. Évidemment, une mozzarella di bufala, mais au lait cru. Et il faut savoir que trouver de la mozzarella au lait cru, c'est pratiquement comme pour tous les fromages, aujourd'hui, extrêmement difficile.
Très rare.
Prenez-en un morceau, goûtez.
Attends, je vais la sentir déjà.
Vous allez voir comme on est proche
c'est bien,
de l'animal, évidemment. C'est un côté un petit peu plus fort en goût. La texture est fantastique. On n'est pas du tout dans du caoutchouc, un truc ou du chewing-gum. Il y a une saveur, et voilà, et c'est de la mozzarella fraîche.
Et une longueur en bouche, c'est incroyable, parce que je la croque depuis le début, là.
Et alors, surtout ça, ni huile d'olive, ni citron, ni basilic, ni sel, ni poivre. Peut-être un tout petit peu de poivre, à la limite.
Un petit poivre, moi.
Mais rien d'autre, tellement elle est équilibrée.
Yves Condebord.
Ouais, c'est vrai qu'elle est tout en finesse, et surtout elle est tout en fraîcheur, onctueuse, fraîcheur, et juste ce qu'il faut comme croquant.
Mais c'est vrai, il y a cette belle
texture
quand même,
croquante,
effectivement. Ouais. Eh bien, mon goût de la semaine, les amis, il est là dans le studio. Marion Sauveur en a parlé ce matin, 6h20 sur Europe 1. C'est la Mirabelle de Lorraine. Et elle est très gentille parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller secouer mon Mirabellier. Donc, elle m'en a apporté quelques-unes qui débarquent à l'instant de Lorraine. Je vais le secouer tout à l'heure, moi, mon Mirabellier.
Et il n'y en a pas beaucoup cette année.
Non, elles sont grosses parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Donc, elles sont bien joufflues. Elles sont rares, mais la récolte est bonne. Et au niveau des prix, ça dépend des régions. Mais on les trouve entre 4 et 8 € le kilo, la Mirabelle de maintenant, c'est comme la reine Claude, c'est la période, c'est une...
Il faut en profiter.
Une belle prune, il faut en profiter. Allez, maintenant on prend la direction de la Bretagne et le marché de Dinard en Ille-et-Vilaine. Alors c'est la fin des vacances hein, pour bon nombre d'entre vous. Julien Matt vous a tendu le micro aux Halles de Dinard et vous lui avez confessé vos plaisirs gourmands avant de rentrer.
D'autres cabillauds et des crevettes grises.
On prend les fraises à un endroit parce qu'on sait d'où elles viennent. On prend les pommes parce que c'est la grand-mère qui cultive les pommes.
Pour le moment, vacances et installation de mes parents. L'occasion de leur faire un petit coucou avant la rentrée.
Alors nous, on ne cuisine pas parce qu'on est à l'hôtel. Du coup, on n'a pas de cuisine. Hein, donc on va au restaurant.
Puis on a réservé pour ce soir.
Alors pour madame,
les huîtres.
Et puis la crêpe
au caramel beurre salé. Excellent.
Et vous avez des brugnons blancs? Alors, 1 kilo de brugnons blancs, s'il vous plaît.
L'été, là, quand il fait beau, en tout cas, on fait facilement des grillades aussi, ouais, au barbecue.
Et des salades.
Et que probablement à Paris, on en fait un peu moins.
Par exemple, ici, je mange du poisson tout le temps. C'est pas pareil. Acheter du poisson à 250 km de la mer, c'est pas pareil que de l'acheter sur le port. C'est la différence.
Eh oui.
Voilà, bon appétit.
Bon appétit, monsieur. Vous avez tellement raison. Les produits n'ont pas le même goût quand on les mange sur leur lieu de production, de culture ou de pêche, hein, Yves Candebord.
Oui, totalement. C'est vrai que déjà, je pense qu'il y a psychologiquement l'émotion là, voilà, de consommer dans le lieu où c'est fait. Et par contre, pour le poisson, c'est une réalité. Quand il vient de sortir de la mer, il n'a pas passé 48 heures quand on le reçoit à Paris dans les caisses polystyrène avec de la glace. Donc on est vraiment sur le iodé, sur la pureté du goût.
Oui, mais quand on habite loin de la mer, on a quand même le droit de manger du poisson.
Ah non, aussi. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est vrai qu'il y a une différence de goût. On peut dire ce qu'on veut,
oui,
c'est la réalité.
Et puis on va avoir accès peut-être aussi à des spécimens, à des variétés qui voyagent moins bien et qu'on trouvera plus difficilement. Moi, j'étais au Pays Basque cet été, en partie, et je suis allé faire mon marché plusieurs fois autour des Halles de Saint-Jean-de-Luz. Et dans les Halles de Saint-Jean-de-Luz, il y a des poissonniers magnifiques, admirables. Et parmi mes découvertes de l'été, eh bien, la ventrèche de thon. Ouais, sur une plancha hyper chaude, juste de l'huile d'olive, ce bon gras, il y a ce côté fondant, mais c'est exceptionnel. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie.
Oui,
ça,
c'est une texture qui est très particulière, parce que voilà, c'est le ventrèche, donc c'est le ventre du thon.
C'est le lard du thon.
C'est le lard du thon, voilà, je dirais qu'il y a juste cet équilibre entre chair et gras, et qui amène toute l'onctuosité et cette longueur en bouche qui est très agréable.
Votre découverte de l'été vous tient, Olivier ?
Eh bien, moi, c'est une découpe. C'est une épaule d'agneau, mais qui a été désossée, qui a été mise à plat. Donc, toute fine en réalité, que j'ai fait mariner pendant 24 heures avec de la moutarde, des épices, de l'huile d'olive, plein de choses, et snacker ensuite au barbecue. Et là, ça donne, parce que là aussi on est dans un morceau qui a du gras, ça donne du croustillant et ça donne une toute autre texture à cette épaule que d'habitude on cuit entière, oui, et qui est un peu comme un gigot,
comme
plus petit.
Comme une crapaudine un petit
comme
peu.
Comme une crapaudine.
Hein, c'est ça.
Et franchement, c'est redoutable au barbecue.
Ouais, puis c'est facile à cuire en plus pour finir.
Allez,
c'est l'avantage.
Sortez le barbecue, il y a encore des régions, il va faire beau et puis je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un bel été indien quand même. Hein. On va rêver, on
Espérons.
Va espérer. Allez, on continue de se régaler jusqu'à midi et demi. Restez avec nous. Dans quelques instants, on part pour le bassin d'Arcachon. On va décoquiller les huîtres. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Vous le savez, hein, chers auditeurs, chaque semaine, on vous emmène goûter le meilleur de nos régions. J'en profite, tiens, au passage, pour remercier tous les correspondants locaux d'Europe 1. Ils sont mobilisés, hein, pour nous tenir au courant de l'actualité gastronomique cette année, l'actualité gastronomique de leur région. Et puis, vont nous faire aussi découvrir des producteurs locaux. Et on l'a encore vu cet été avec les vacances en France. Notre pays contient un patrimoine culinaire exceptionnel. On peut le redécouvrir en permanence, Yves Candebord.
Oui, parce qu'on peut le redécouvrir sans aucun problème, étant donné je pense qu'on n'en connaît même pas, peut-être 20% réellement. On a la chance d'avoir des pépites, quelle que soit la région. On a des gens qui ont des convictions, qui font des produits d'exception, qui y mettent de la valeur, qui y mettent des convictions, qui y mettent du sens. Et tout ça pour nous faire plaisir quand ça arrive dans les assiettes. Et ça, c'est important.
Les races anciennes, les variétés anciennes. On a plein de belles découvertes. Et à propos du patrimoine culinaire, on vous retrouve tous les jeudis maintenant dans la matinale Olivier Pouls à 7h50 pour nous parler justement d'une belle initiative.
Et oui, mettre chaque semaine un coup de projecteur sur ces hommes et ces femmes qui se lèvent tôt, qui ne prennent pas de vacances, qui ont chevillé au corps la passion de la grande gastronomie. Et je trouve que leur consacrer quelques minutes toutes les semaines, c'est le moins qu'on leur doit.
Alors on commence, tiens, notre petit tour de France avec notre correspondant dans le sud-ouest. Stéphane Place, vous le connaissez. Eh bien, Stéphane, aujourd'hui, il nous emmène sur le bassin d'Arcachon à la rencontre d'un ostréiculteur passionné. Vous le connaissez probablement. Bonjour Stéphane.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Direction le Cap Ferré à la rencontre de Joël Dupuche, que la presse a parfois surnommé l'ostréi-acteur, puisque cet enfant du bassin d'Arcachon est capable de travailler dans ses parcs ostréicoles le matin et de tourner, souvenez-vous, devant les caméras de Guillaume Canet l'après-midi, d'incarner notamment Jean-Louis dans Les Petits Mouchoirs. Sacré personnage Joël, ces huîtres de l'impératrice, il les bichonne.
Là on est au-dessus de mes bassins. Elles sont dans l'eau à 13 degrés, là, elles sont fraîches, croquantes, en fait, ça va être le bonheur. Quoi. L'huître du bassin a un petit côté sauvage, je ne peux pas vous expliquer d'où ça vient. Une légère amertume qui est beaucoup plus sauvage et beaucoup plus puissante que d'autres huîtres.
Ce sont des huîtres très charnues, c'est celles que vous aimez, vous.
En fait, pour moi, il y a deux types d'huîtres. Il y a les huîtres de sensation qui peuvent amener une impression de fraîcheur, de bord de plage, d'iode, de sel. C'est celles que souvent les gens gobent, hop, ils avalent. Et moi, j'aime l'huître d'émotion. L'huître, quand on la met à la bouche, déjà, elle est ferme. On commence à la mâcher, au début, il y a du sel et il y a de l'iode. Et après, on rentre dans la chair quand on commence à croquer. Et là, ça délivre des saveurs de noisettes, de sous-bois, de champignons. Et c'est très long en bouche. Et là-dessus, si vous mettez un petit coup de blanc ou de champagne ou même d'un vin rouge léger, ça vous fait exploser toutes les saveurs et finalement avec une huître bien charnue que vous croquez, vous pouvez garder le goût pendant une demi-heure dans la bouche.
Ah, il en parle bien, les huîtres de sensation et les huîtres d'émotion, c'est une belle définition ça Yves hein ?
Oui, c'est une belle définition, c'est surtout un produit de gastronomie, de grande gastronomie, avec lequel les cuisiniers, on peut s'amuser autant en cru qu'en cuit.
C'est vrai.
Ça marche tout le temps, c'est très agréable.
Et croquons l'huître, hein, ça se mâche.
Ah oui, moi j'aime les huîtres qui ont quand même un peu de corps, un peu de volume. J'aime pas les huîtres toutes petites dans lesquelles il n'y a rien à manger.
À l'apéro.
Ah non, moi j'ai besoin d'avoir quand même un peu de mâche et puis d'accord pour le blanc, allez Yves.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on se met à table autour d'un plateau d'huîtres, il y a toujours une question qui revient. Et Stéphane Place, il l'a remarqué. Hein, Stéphane ?
Avec cette sempiternelle interrogation, Laurent, on l'a tous. Est-ce qu'on peut manger des huîtres toute l'année, y compris l'été, qui ne sont pas des mois en air ? Question que j'ai posée à Joël Dupuche.
La règle des mois sans air est une loi qui avait été éditée par Colbert, qui interdisait le transport des huîtres pendant la période des mois sans air à plus de 20 lieues des sites de production. De cette interdiction de transport est née une habitude de non-consommation pendant la période des mois sans air. Aujourd'hui, c'est terminé, vu qu'on a des huîtres des quatre saisons, que les transports frigorifiques sont parfaitement adaptés. Donc vraiment, mangez des huîtres toute l'année, en toute confiance et régalez-vous. Alors les huîtres du bassin, en cette période-là, sur la diploïde, elles sont un peu laiteuses, et encore, c'est la fin maintenant, puisqu'on est fin août, et donc elles ont pondu.
Alors, on va vous éclairer justement sur la différence entre les diploïdes et les triploïdes. Mais avant, dernière question à Stéphane Place. La météo n'était pas terrible cet été et ça a dû jouer aussi sur le développement des huîtres, Stéphane.
Et puis figurez-vous que les huîtres, comme les touristes d'ailleurs, souffrent cet été du manque de soleil et de chaleur.
Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fabrication de phytoplancton et donc il n'y a pas de nourriture pour les huîtres. Aujourd'hui, on constate que la pousse dans toutes les huîtres a pris beaucoup de retard. Donc ça risque poser à court terme, sous un mois ou deux, de gros problèmes de stock au plan national.
En clair, on n'a plus qu'à croiser les doigts, Laurent, pour que l'arrière-saison soit particulièrement belle ici, sur le bassin d'Arcachon.
Eh bien merci Stéphane Place. Et oui, on croise les doigts pour les ostréiculteurs et puis pour tous les agriculteurs qui nous écoutent et qui ont du fil à retordre cette année avec cette météo qui est quand même atypique. Hein. On le voit, Yves, les prunes, par exemple, elles ont du retard. Enfin, il y a beaucoup d'aléas climatiques qui ont engendré des problèmes de production.
Oui, le mois de mai a été un mois un peu catastrophique pour l'ensemble, je dirais, de la terre française, quoi, avec les gels autant dans les vignes que dans les maraîchages. Et c'est vrai qu'on a les abricots qui sont en retard, on a une petite aussi récolte, les pêches qui ne sont pas complètement mûres, on a un peu décalé la saison. Alors j'ai envie de vous dire, il faut toujours trouver du positif, eh ben, ça va nous faire plaisir ce mois de septembre, voire début octobre, de profiter des fruits et des légumes que normalement on en était.
Et le cours du blé a augmenté parce qu'il y a une pénurie de blé avec des problèmes au Canada et dans d'autres pays. Et donc c'est vrai que la France se retrouve en tête pour vendre le blé qui a vu son cours augmenter. Alors on parlait des diploïdes et des triploïdes avec Joël Dupuc et puis Stéphane Place. On va dire les choses clairement. Hein. Les diploïdes, eh bien, ce sont des huîtres, on va dire, naturelles. Et les triploïdes, ce sont des huîtres génétiquement modifiées, en fait.
Alors, c'est pas des OGM, hein. Ils se défendent bien, sont des croisements. Effectivement, il y a un chromosome supplémentaire dans l'huître triploïde qui fait qu'en fait, elle est stérile. Elle ne se reproduit pas. Et donc, la diploïde, l'huître classique, qui entre dans des périodes de reproduction au moment de l'été, eh bien, elle laisse, on appelle laiteuse, parce qu'elle elle sécrète des gamètes qui sont, par ses organes de reproduction, ce dont elle a besoin pour se reproduire. Et donc, la triploïde, elle, pas, elle est standard, elle est standardisée, si je puis dire. Elle a le même goût, le même volume toute l'année. On peut la manger tout le temps. Certains disent d'ailleurs qu'elle est plus charnue parce que l'énergie que l'huître diploïde met pour sa reproduction, bah, elle la met dans sa croissance, en fait, la triploïde. Et donc, elle est un petit peu plus charnue.
C'est vrai que oui, elles prennent la place dans la coquille, en
général. Oui, elles prennent la place dans la coquille. Et c'est vrai, honnêtement, que c'est très difficile à la dégustation de voir la différence entre la triploïde et la diploïde. Après, la vraie question que je me pose, et que beaucoup d'ostréiculteurs se posent aussi, en déréglant les cycles normaux, alors, en créant une huître qu'on peut consommer toute l'année, donc qui a la même identité, le même goût toute l'année, est-ce que quelque part, on ne pose pas un problème général à l'ensemble des agriculteurs? Parce qu'on
Vous avez raison, ça fait débat.
Ça fait débat parce qu'il y a beaucoup de mortalité, on perd énormément
de maladies.
Il y a beaucoup de maladies. Donc, il y a une question qui reste quand même, qu'on n'est pas capable aujourd'hui de répondre. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'avoir fait ça? Après, il ne faut pas se voiler la face. J'adore Joël, mais quand même, c'est quand même avant tout du business et de la finance. C'est pour pouvoir vendre des huîtres toute l'année.
Comme les Gillardeaux, vous voulez dire, alors aussi dans
comme
ce cas-là.
Comme la famille Gillardeaux, qui fait un travail d'exception, qui fait un produit d'exception, mais qui ont créé la triploïde pour pouvoir avoir des huîtres toute l'année.
Donc découvrons aussi les diploïdes, hein, quand on peut, et effectivement, il faut discuter avec les ostréiculteurs pour savoir à quel type d'huîtres on a affaire. Comment vous les aimez, tiens ?
On est attaché aux saisons aussi, Laurent. Moi, je pense que ça aussi, on est attaché aux saisons. Alors, les fameux mohairs, ils étaient ce qu'ils étaient, Joël l'a expliqué.
C'était pour la conservation.
C'est une réalité. Mais ça fait du bien de couper avec un produit et de le retrouver quelques mois d'après.
Comment vous les aimez ?
Moi, avec une demi-goutte de jus de citron, c'est tout.
Ah oui, c'est tout.
Rien de plus, rien
juste
moins.
Juste le moulin
et
poivre.
Surtout pas de
vinaigre à l'échalote.
Après une recette chaude, parce que moi j'aime bien aussi chaud, juste une noix de beurre demi-sel, un coup de moulin à poivre et les passer au four très chaud. 25-30 secondes, pas plus. Et là, vous avez la tiédeur avec la texture du cru.
Je prends Yves Candebord. Dans un instant, on va parler de la folie des burgers au restaurant. Mais avant, on s'intéresse à l'actualité gastronomique de la rentrée.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, c'est l'information de l'été. Hein. Vous l'avez vu peut-être à la une du magazine le magazine du Monde, le week-end dernier. L'arrivée imminente de Jean Humbert au Plaza Athénée à Paris. Il va remplacer Alain Ducasse. Alain Ducasse, chef le plus étoilé au monde, qui a tenu le Plaza Athénée en cuisine pendant plus de 20 ans, qui a mis en place un concept de naturalité. Alors, je vous explique où se trouve le Plaza Athénée pour nos amis qui nous écoutent en région. C'est en bas des Champs-Élysées, c'est avenue Montaigne, c'est un palace luxueux. Et c'est vrai qu'Alain Ducasse a tenu les cuisines pendant 20 ans avec un concept de naturalité. Un concept qui est, on va revenir sur ça avant de parler de Jean Humbert, Olivier Pouls, qui a même été innovant pour un restaurant gastronomique 3 étoiles.
Oui, et porté par un très grand chef exécutif, hein, Romain Médère. Et l'idée, c'était de remettre le végétal, alors les légumes, mais aussi les légumineuses, tout ce qui vient de la terre en avant, et prouver qu'on peut faire du 3 étoiles sans prendre des viandes d'exception ou des poissons rares. Et voilà, d'avoir une nouvelle vision de la cuisine, c'est vrai, assez moderne, faut-il bien le reconnaître, et très bien portée par Romain Médère.
La naturalité, hein, c'était le fameux concept, avec uniquement beaucoup de légumes rôtis, cuits, fermentés.
Il me semble qu'Alain Passard a fait ça 10 ans avant, non c'est... Je me trompe, non.
20 ans.
Non, il n'y avait pas que le légume, hein, attention, il y avait aussi le poisson qui était mis en avant, mais c'est vrai que c'est proche de ce qu'a fait Alain Passard, bien entendu. Avec peut-être une plus grande place aux céréales, vous seriez mauvais. Non, vous voulez dire
J'adore ces concepts. Innovant qui s'appuie sur des choses qui existent. Quoi.
Et il a futé pour la rentrée. Et encore, on n'a pas attaqué notre dossier burger. On va le faire. On va le faire réagir sur la folie des burgers dans les restaurants tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il en a sous le pied. Alors, on va parler de Jean Humbert. Tiens. Jean Humbert, les auditeurs le connaissent probablement. Vous l'avez découvert avec la saison 3 de Top Chef. C'est quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux. C'est qui, Jean Humbert ?
Écoutez, c'est un chef, c'est déjà ça, qui a un parcours relativement classique, hein, qui a travaillé dans quelques belles maisons, qui aujourd'hui n'a pas encore prouvé qu'il était au niveau des plus grands chefs étoilés. On connaît quelques-uns de ses restaurants.
Mais est-ce qu'il vise les étoiles ? Je ne suis pas sûr.
Mais non, certainement pas. Je pense que de la part du Plaza, c'est un coup de com'. Jean Humbert, on le sait, est le chef ami des stars, entre guillemets, très actif sur les réseaux sociaux, c'est une signature. Mais ils ne sont pas idiots complètement au Plaza, parce qu'ils lui ont mis derrière un chef exécutif qui lui connaît très très bien la musique, qui est un ancien acolyte d'Alain Ducasse d'ailleurs, qui s'appelle Jocelyn Erland, et qui va piloter aussi les cuisines.
C'est un changement qui a été un peu accéléré, Yves Candebord, par la crise sanitaire, parce que les touristes n'étaient pas là, les hommes d'affaires n'étaient pas là, ce sont eux qui fréquentent justement ces endroits.
Oui, moi je pense que c'est un vrai challenge, c'est un vrai renouveau aussi, voilà, de ces palaces qui sont quand même des palaces emblématiques, certes, de la gastronomie mondiale et française, mais peut-être aussi qui sont un peu poussiéreux.
Figés dans le temps.
Alors certes, c'est magnifique. Je pense qu'ils sont allés chercher Jean Humbert, qui est un jeune cuisinier qui doit faire ses preuves. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une cabale un peu contre Jean Humbert par rapport à sa situation qu'on lui a proposée. Mais moi, j'ai envie de rappeler encore un peu d'histoire. N'oublions pas qu'à 88, Christian Constant avait 35 ans. Il a pris le crayon. Il a été critiqué aussi parce que c'était un gamin. Sauf que quand on voit le résultat, il est là. Alors, je crois que Jean Humbert est un vrai professionnel parce qu'il a quand même travaillé avec Éric Briffard. Il a quand même travaillé avec Marc Menot.
Chez Westermann.
Voilà, chez Westermann. Avec Rostand. Donc, il a une carrière professionnelle de vrai cuisinier. Laissons-lui faire ses preuves avant systématiquement d'essayer de lui couper la branche.
Alors, c'est preuve au restaurant gastronomique, il faudra attendre le début de l'année 2022, mais il va ouvrir la brasserie du Plaza Athénée, le Relais Plaza, qui est avenue Montaigne, avec une formule à 70 euros, entrée plat dessert. On vous tiendra au courant et puis on ira goûter sa cuisine, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à savoir quel type de plat il va faire. On a beau creuser, on a beau chercher, on n'a pas les infos encore.
Et il faudra juger, vous avez raison, dans l'assiette.
Exactement.
Tout à fait.
Changement d'ambiance, dans un instant, on revient sur la folie des burgers au restaurant. Yves Condebord est là et reste
mais non, mais
avec nous.
J'adore les burgers.
Mais oui, tiens, tu vas voir, tu mon œil. Allez, juste après la pause, à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Alors cet été au restaurant, vous avez dû le remarquer, hein, impossible ou presque hein, aujourd'hui de s'asseoir dans un restaurant sans burger à sa carte. C'est une tendance de fond hein, qui nous a valu quelques coups de gueule l'année dernière à la table des bons vivants. Des coups de gueule issus en général d'un certain Yves Condebord. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le burger, Yves? Je comprends pas en fait. C'est qu'il y en a partout, qu'on est partout?
Non, j'aime le burger. Alors, quand je vais aux États-Unis, je me délecte, je prends un plaisir de manger du burger. Ce que j'aime pas personnellement, je trouve qu'il est en train de se propager sur l'ensemble du territoire français, il se propage dans les restaurants, et je crois que la France a suffisamment de culture gastronomique, a suffisamment de recettes, et suffisamment de chefs intelligents pour faire autre chose que des burgers. Voilà, c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on essaie de prendre un produit, c'est du marketing, c'est du financier, voilà, et on veut nous l'imposer dans tous les restaurants aujourd'hui. Et le plus désolant, Laurent, c'est qu'on arrive même à le retrouver dans les grands restaurants gastronomiques.
Et le dernier burger que vous avez mangé, vous en souvenez ?
Oh là là, alors la question subsidiaire, là, non Laurent, c'est quand je suis allé aux États-Unis il y a peut-être une dizaine d'années à Los Angeles,
c'est
on,
local,
m'a amené, voilà, on m'a amené manger un hamburger qui était d'ailleurs très très bon.
Et bah oui, il y a de très bons burgers justement, on va en parler parce qu'il y a des chefs qui se mettent à revoir le burger, à le revisiter comme on dit. Et effectivement, quand on a des produits de grande qualité dans un burger, ça fait aussi la différence. Le dernier burger que vous avez mangé, Olivier Pousse?
Je suis d'accord, moi je trouve ça bon, alors j'en mangerai pas toutes les semaines, j'en mange deux ou trois fois par an. Le dernier c'était cet été et je me suis fait un burger au barbecue, j'ai cuit la viande au barbecue, j'ai réchauffé le pain au barbecue, la tomate, je l'ai chauffée un petit peu aussi sur le barbecue. Ça avait du goût, c'était bon. Mais moi, j'ai un autre petit coup de gueule à lancer sur le burger qui n'est pas... qui est un petit peu différent de celui de... J'en ai ras-le-bol des burgers hauts comme des tours. Vous savez, les trucs qui mesurent 20 centimètres, on n'arrive pas à les manger, on se décroche la mâchoire, on en met partout.
Ça coule.
Pourquoi ne peut-on pas faire des burgers, vous savez, qui feraient 4-5 cm de haut, bien tassés, c'est ce que je fais, et vous pouvez avoir tous les produits ensemble en même temps dans la bouche.
Ce qui est bon dans le burger aussi, quand on le refait de façon traditionnelle, c'est d'avoir un steak bien épais avec une belle jutosité, c'est ça qu'on veut aussi justement dans le burger.
On peut essayer des versions plus courtes, je vous garantis que c'est pas mal non plus.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les burgers, on les mange en France avec des couteaux, avec une fourchette et un couteau, on le mange plus au coin de la rue comme on le faisait autrefois, parce qu'il a évolué le burger aussi. 80% des restaurants pratiquement proposent des burgers aujourd'hui sur notre pays.
C'est complètement aberrant.
80% des restaurants hors fast-food et hors restaurants étrangers, donc de restaurants type bistrot qui se revendiquent de cuisine française. C'est-à-dire que le burger, c'est plus une tendance, c'est rentré aujourd'hui dans la gastronomie française.
1,5 milliard de burgers vendus en France. Aujourd'hui, il y a des burgers partout, mais il y a 40 ans, on les voyait que dans les films américains, pratiquement.
Ah bah oui, c'était l'image, vous voyez, des voitures américaines, ils allaient chercher leurs burgers dans les fast-food. C'est arrivé en France à la fin des années 70 au début des années 80 avec les fast-food évidemment, hein, c'est McDonald's qui ouvre son premier restaurant en 1979 et là ça commence à prendre et à marcher. Il y avait eu quelques tentatives auparavant mais qui avaient fait flop, et moi je me souviens en Belgique on avait Quick, et le premier Quick qui s'était ouvert au début des années 80, on allait manger là le mercredi midi, mais c'était la fête, c'était tout nouveau, ça nous faisait des États-Unis.
Moi je veux voir Olivier Pouls chez Quick, et qu'est-ce que vous avez pris comme accord mes vins alors?
Ben, c'était compliqué, à l'époque j'en buvais pas.
La alors, villageoise. Non mais alors attendez, parce qu'on rigole quand même des burgers, mais c'est vrai que c'est un vrai truc de génération. Vous voyez, moi l'autre jour, je suis allé manger avec mon fils qui a une vingtaine d'années un burger au Fermier Burger, je vous donne l'adresse, tiens, au marché des Enfants Rouges à Paris dans le 3e arrondissement. Excellent burger avec un steak, avec une viande maturée qui a du goût, avec un fromage affiné au cidre. Je vous assure que c'est délicieux.
Oui,
alors
c'est
on
n'en
mange pas tous les jours, bien entendu, mais il y a aussi ce côté générationnel, Yves Condebord. Hein.
Oui, je peux l'entendre, je le comprends, mais moi ce qui me désole sur le redis, c'est que voilà, qu'on fasse des restaurants spécifiques burger comme vous êtes allé aux Enfants Rouges, et j'y suis allé il y a quelques années, c'est vrai que c'est remarquable, mais qu'on l'intègre systématiquement maintenant dans notre gastronomie, dans les cartes de restaurants français traditionnels, ça me fait mal au cœur.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi, parce qu'on arrive avec une génération qui peut-être mange moins de viande aussi, et que la viande qu'elle mange, elle l'a connue surtout dans le burger, et qu'on a aujourd'hui des gens qui font de très bons burgers avec des viandes bien élevées, on a vraiment une traçabilité sur la viande, et la viande, si je puis dire, elle est hachée dans le burger. Alors, on ne voit pas le morceau,
et pour certains qui ont
du mal avec le monde animal, c'est peut-être une des raisons.
C'est même pas ça, c'est que ça sauve aussi la filière bœuf aujourd'hui en France, parce que si on ne fait pas, avec toutes les parties du bœuf qu'on ne veut pas manger aujourd'hui, du burger, de la viande hachée, on ne sait pas quoi en faire.
Ouais, mais on fait manger du mou, quoi. Alors, est-ce que c'est vrai que peut-être que maintenant, il y a une génération qui aime manger tout mou,
ça, c'est possible.
Mais quelque part, c'est vrai qu'on a le pain mou, la viande hachée, on est dans la facilité, on est dans la non-réflexion gastronomique, on mange, on est un robot qui mange juste pour se nourrir. Moi, ça me désole un peu, voilà, qu'on en fasse... qu'on est en train d'en faire un emblématique de notre gastronomie.
Réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Que pensez-vous de cette folie des burgers, de cette mode des burgers? Est-ce que vous allez justement au restaurant pour manger des burgers? Mais on va l'entendre tout à l'heure avec Yannick Aleno, de Grand Chef, s'amuse à revisiter le burger et je peux vous assurer que les résultats sont assez bluffants et on a justement ce petit lien, ce trait d'union entre la cuisine gastronomique et la cuisine de tous les jours. C'est ça le burger aussi. Alors oui, c'est une génération tout mou peut-être qui est habituée à moins mâcher. Mais ça nous permet de découvrir quand même des viandes bien travaillées, Yves Candebord.
Oui, certes, Laurent, je vous entends sur votre discours. Mais après aussi, moi, je pense que le burger aussi, vous savez, il a une importance dans le tiroir caisse.
Voilà. Ah bah oui, bah alors la pizza aussi dans ce cas-là. Et les pâtes, alors c'est pareil.
Oui, mais on voit quand même moins de pizza dans les restaurants.
Il y a
des restaurants spécifiques à pizza, oui. Mais vous n'allez pas trouver un restaurant gastronomique où il y a une pizza, où c'est très rare. Voilà. Mais il y a une réalité, c'est que le burger, c'est quand même... La vérité, c'est que tout le monde est capable de le faire à la maison. Donc c'est deux tranches de pain avec une garniture et un steak poêlé. Le prix de revient est intéressant. On n'a pas besoin d'un technicien aussi hors pair pour le réaliser. C'est sans doute aussi pour ça, voilà, que le tiroir caisse est heureux d'accueillir le burger, parce qu'il y a ces raisons-là.
Et le burger, on peut le faire à la maison aussi, en choisissant de bons produits, on peut le faire avec les enfants à la maison. Et je vous le disais, un de nos plus grands chefs se met au burger avec son fils, on en parle juste après, c'est Yannick Aleno qui sera avec nous. Bon samedi midi, non il est 11h35, mais bientôt midi quand même sur Europe 1, et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Le burger s'est installé en France, hein, plus qu'une mode, c'est une tendance de fond. Alors loin des burgers vite fait, mal fait, il y a une vraie proposition de burger cuisiné, travaillé, réfléchi. On en parle dans un instant avec Yannick Aleno. Mais juste avant, un petit retour dans le temps sur l'histoire du burger, Olivier Pouls. Il a existé avant les fast-foods, le burger.
Bien avant, et d'ailleurs l'étymologie du mot burger, hamburger, viendrait de la ville de Hambourg.
Ah c'est sûr.
Oui, puisque ce serait a priori des immigrés allemands qui avaient amené avec eux, en partant aux États-Unis, cette technique de viande hachée qu'ils enfermaient entre deux tranches de pain.
Ils l'aplatissaient comme ça avant de partir, ouais. C'est une espèce de boulette qu'ils aplatissaient.
Voilà, puis qu'on mangeait comme ça à la main. Alors après, il y a un grand débat, plusieurs revendiquent l'idée d'avoir mis le fameux pain bun qui va un peu tout changer, et puis d'avoir changé aussi le style des burgers en rajoutant du fromage, des garnitures, etc. Il faut savoir que selon une étude menée par Deliveroo, le top du burger le plus demandé en France, c'est le cheeseburger. Il est préféré au burger. Et ensuite, je crois que c'est le chicken burger qui vient aussi, qui est une grosse cote de popularité chez nous.
Un bon poulet fermier transformé en burger, franchement.
Bon poulet, hein.
Mais alors
Laissez les vivants.
On va les manger, les poulets. Mais un bon poulet bien élevé, je parle.
Oh là là. Vois la belle volaille de Bresse bien élevée.
Ah non,
on va pleurer.
On va demander à Yannick Aleno ce qu'il en pense, tiens. Parce que c'est vrai qu'après Anne-Sophie Pic, après Hélène Darroze, le chef Yannick Aleno s'est mis au burger. Et pour lui, c'est une histoire de famille. Avec son fils Antoine, ils viennent d'ouvrir Burger Père et Fils à Paris, dans le 7e arrondissement, au Beau Passage. Bonjour Yannick Aleno.
Bonjour Laurent, bonjour les copains. Bonjour.
Salut Yannick.
Comment ça va bien? Alors vous avez vu que ça fait débat, hein, le burger à la table des bons vivants. De quand date pour vous l'amour du burger? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le grand chef cuisinier étoilé que vous êtes, le burger?
Bah comme Yves, moi j'ai travaillé dans les palaces et c'est des choses qui sont un peu imposées sur les cartes auprès de notre clientèle. Donc en 2008, moi j'ai été élu meilleur burger du monde par le New York Times. Ils avaient fait le tour de la planète pour voir les meilleurs burgers. On a décroché le pompon et ce qui nous a valu d'ailleurs une communication exceptionnelle. Hein. Ça a été,
Qu'est-ce qu'il avait de particulier alors, ce meilleur burger du monde?
Bah, faut en parler à Antoine s'il est avec vous, mon fils. Il est sympa avec lui, sa première radio.
Eh ben, il arrive, alors tiens. Voilà. On va le faire rentrer dans le studio.
Mais quand je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai été élu meilleur burger en 2 minutes. Il me dit, papa, tu ferais ton sandwich aujourd'hui, il serait ringard. Et j'ai dit, écoute, bah, si c'est le cas, fais le tien. Et il s'est amusé pendant le confinement à travailler dans les cuisines du pavillon Le Doyen. Et il m'a délivré un sandwich, mais vraiment exceptionnel. Et j'ai dit, tu sais quoi, ce truc-là mérite d'avoir son public. Et si ça t'amuse, prends le restaurant et fais-en ton lieu. Quoi.
C'est vrai que c'est parti. C'est né pendant le confinement, un burger père et fils que vous ouvrez à Beaupassage dans le 7e arrondissement. Et ben, il est là,
il a
tiens.
Bossé 2 mois et demi sur le sandwich, c'est un truc de dingue. Il a bossé de façon importante. Et j'espère que ça va vous plaire, mais tout a été à sa vision de sa génération. On parlait de génération, on n'est plus dans du buns, on n'est plus évidemment la viande est maturée. Évidemment, il me dit, mais papa, on ne met plus de tomates dans un burger, c'est ringard, etc. Donc, c'est un sandwich qui a une autre, je dirais, c'est plus valorisé que ce que je faisais en l'époque au 2008.
Et le pain est croustillant, ce qui est intéressant.
Et il est là, le fiston, c'est Antoine Alénaud. Dis bonjour à papa.
Voilà. Salut, papa.
Bonjour Antoine Alénaud, merci d'être là avec nous.
Bonjour Antoine.
Vous nous avez apporté les burgers. Alors déjà, vous venez d'entrer dans le studio Coluche avec ces burgers. Ça sent bon, ça sent la bonne viande, ça sent le bon pain, ça sent pas le graillon. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on peut le trouver dans certains endroits. Hein. Racontez-nous ce que vous avez mis dans ces burgers alors.
Alors le premier, le Arsène, se compose d'un bœuf maturé 45 jours de race normande.
45 jours, donc ça a du goût. Hein.
Exactement. Donc on l'a travaillé, on a essayé de réinterpréter les beaux réflexes de la cuisine française. Donc là c'est c'est un steak qui est travaillé comme dans un esprit d'un steak au poivre. Donc le pain est frit, donc ce qui permet d'avoir ce côté très croustillant.
Oui, c'est très intéressant dans la texture.
Et à la fois très moelleux à l'intérieur.
Très bon. Alors là, pour le coup, vous avez goûté là le Larsen?
C'est très très bon.
Non, c'est très bon. Bien sûr que c'est très bon.
Mais pourquoi c'est bon? Parce que c'est bon, parce qu'il y a les croustillants.
Voilà.
Il y a de l'assaisonnement. Voilà. Il y a des épices.
Hein. Et il y a de la mâche.
Il y a du caractère. Oh. Non mais c'est sûr que Yannick et Anton vont faire un burger d'exception. Mais moi, je suis sûr et certain, il n'y a
pas
de souci.
On va le convertir.
Non, c'est pas ça. Mais moi, je suis converti. J'en mange de temps en temps, Laurent. Le seul truc, voilà, c'est que je vois ça partout en France. Vous l'avez cité, vous rendez compte, Anne-Sophie Pic, Hélène Darros, Yannick Alénaud. Moi, je dis que moi, ça me fend le cœur. Après, je comprends Yannick qui a une histoire sans doute avec son fils et qu'il le fasse. C'est bon, il y a pas de souci.
Mais c'est délicieux.
Mais ça me fend le cœur de voir ces burgers. On est en train de leur donner des lettres de noblesse et bientôt peut-être qu'ils vont remplacer la gastronomie française. Ça continue.
Qu'est-ce que vous répondez, Yannick?
Vaut mieux qu'on s'en occupe nous les chefs, tu vois. Après, quand tu vois l'escoffier, la recette de l'ambourgeois était déjà présente. Hein, donc c'est pas un truc nouveau. C'est vrai que le phénomène se développe, mais des grands chefs avant nous, et on parle de nos contemporains, mais escoffier, le maître lui-même, avait déjà fait un travail extraordinaire sur la viande avec cette petite échalote farinée. Quand le sang perle à la surface du bœuf, le bœuf est cuit. Enfin, c'était pas, c'est de la cuisine malgré toute chose. Tu vois.
Ah non, mais je ne dévalorise pas le travail du cuisinier. Et certes, je viens de le goûter. C'est exceptionnel. Voilà. C'est que moi, je me pose une question, Yannick. Quand je vois aujourd'hui le panorama qu'on voit dans Paris entre les restaurants asiatiques, les restaurants italiens et les hamburgers, je dis heureusement qu'il y a encore quelques maisons traditionnelles françaises qui sont là pour se battre. Quoi. Oui, c'est quand même un vrai danger. Et en plus que.
La diversité. Et
en plus, Yannick, vous prenez ça en main, vous, et vous allez faire quelque chose d'exceptionnel, c'est sûr et certain. On sait. C'est compliqué.
Il y a de la place pour tout le monde et en même temps, est-ce que c'est pas la faute aussi à certaines brasseries qui ont voulu faire des cartes à rallonge, proposer des burgers, à proposer tout. Donc comme dit Yannick Alénaud, vaut mieux que les vrais chefs cuisiniers s'en emparent et le revisitent. Alors on a goûté le Arsène, il y a le Lupin aussi, Antoine Alénaud. Racontez-nous ce qu'il y a dans le Lupin.
Le Lupin, on a voulu proposer une offre végétarienne car la clientèle attend aussi un végétarien. Donc là, on a travaillé une farce végétale à base de betterave, de fermentation de betterave, de riz noir.
Le riz noir vénéré.
Exactement. Ah oui. Et voilà, on fait une farce assez sympa ici. C'est dans l'esprit d'un boudin aux pommes. Donc voilà, c'est pour trouver un peu quand même ce côté viandard qu'on aime bien retrouver dans un burger. Je pense que le produit est plutôt bien fait et
il
on est
bien
assez
fait.
Fiers.
Non, c'est très très bon.
Et les frites sont délicieuses. Qu'est-ce que c'est que ce taillage de frites? Elles sont étonnantes un petit
peu. Alors c'est un taillage qu'on appelle coin de rue. Donc pour la faire un peu grossièrement, on les écrase au marteau. Donc ce qui permet d'avoir des cassures dans la pomme de terre et que l'huile rentre bien dans la pomme de terre.
Ah,
et ce qui permet de l'avoir très croustillante et moelleuse à la fois.
comme les pommes de terre tapées frites. Un peu.
Je vous confirme qu'elles sont très bonnes.
C'est un Belge qui parle. Hein, c'est un Belge qui parle, Yannick et Antoine Alénaud.
L'intérieur est très moelleux. Il y a une vraie texture très intéressante de frites. Et en plus, vous les avez faites voyager. Et normalement, elles auraient dû ramollir et elles n'ont pas ramolli. Bravo.
Le prix moyen du burger en France est de 12 euros. Vous allez les vendre combien chez Burger Père et Fils?
Là, le menu
dans le 7e
Burger Père et Fils, le bœuf et le veau, le marguerite sont à 19 euros avec le menu. Et le lupin, le végétarien, donc, est à 17 euros.
D'accord, donc voilà, on a des produits de qualité. Comme vous le dites, Yannick Alénaud, moi je retiens votre phrase, vaut mieux qu'on s'en empare nous qu'on laisse ceux qui vont faire quelque chose de mal fait le faire et le démocratiser encore plus, quoi. C'est ça que vous dites?
Ouais, et puis à la fois, je crois qu'il y a aussi une habitude de consommation, les choses changent, les choses ne sont pas figées. On parlait tout à l'heure de la ringardisation des hôtels et que ça bouge, tout le monde bouge en fait. Hein. Et nous, au restaurant Burger Père et Fils, on a une carte de 500 références, vous pouvez venir vous taper un sublime burger avec un joli cru français. Enfin, on essaie d'inventer un nouveau moment de vie différent dans ce lieu. Donc on utilise évidemment notre savoir-faire bistrotier de restaurateur et puis pour donner un service aussi, parce qu'il y a du service, il y a des jolis verres, il y a une carte de vin étoffée et variée. Enfin, c'est autre chose, hein, autre chose. Je crois.
Merci, Yannick Alénaud. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et
tous.
D'être avec votre fils qui est avec nous. Merci Antoine d'être
merci
venu.
À vous.
Et on emmènera Yves Condebord chez vous parce qu'il a tenu qu'il y avait de bovins. On lance pas le débat.
Les bons
burgers. On se retrouve dans un instant avec le comédien et réalisateur Maurice Barthélémy. Nous allons titiller les cinq sens de cet hypersensible. Mais juste avant, on écoute Sting sur Europe 1. Sur Europe 1, il est bientôt midi, bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire et c'est l'heure d'accueillir notre invité à la table des bons vivants. On l'a découvert agité, survolté et drôle, surtout avec la bande des Robins des Bois. Depuis, il trace sa route de comédien, auteur, réalisateur. Il s'est découvert hypersensible il y a quelques années. Il en a fait un livre qui est un succès d'ailleurs. Aujourd'hui, il en fait une drôle de conférence pour le théâtre. Fort comme un hypersensible, c'est le titre. Eh bien, Maurice Barthélémy est notre invité. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'être là.
Bah, merci à vous. J'aime bien le terme drôle de conférence. Bah, je vais le réutiliser.
Et bah, c'est ça. Bah, ouais. Moi, j'ai lu votre pièce parce que vous la commencez le 17 septembre là, au théâtre La Pépinière.
Exactement.
Et j'ai vu qu'on retrouve évidemment des choses que vous dites dans votre livre.
Ouais.
Je vous parle et là, je vois que vous avez enlevé votre casque. Je pense, c'est ça, c'est l'hypersensibilité du
exactement.
Son.
Exactement. Parce que le fait de m'entendre peut me gêner. Donc à ce moment-là, j'enlève le casque, sinon ça me perturbe.
Je pense qu'il y a un nombre incroyable de personnes qui vont se retrouver dans votre personnage.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Par exemple, votre assistante, votre programmatrice est venue me voir tout à l'heure en
Claire
me disant
Dutronc.
Ah bah, ça me parle, quand j'ai lu votre bouquin, ça me parle. Et c'est vrai que plus j'en parle, plus il y a des gens qui viennent me voir en me disant waouh, je savais pas que c'était ça l'hypersensibilité. Oui. Il y avait un malentendu. Quoi.
Rien à voir avec l'hyper-émotivité.
Non.
Hein. Faut qu'on
non.
explique, c'est que vous avez quoi les cinq sens sont exacerbés. Quoi.
C'est ça, c'est plus un surplus d'informations qu'un surplus d'émotions, quelque part. Donc, et puis c'est aussi beaucoup d'intuition, c'est aussi beaucoup d'empathie. Et puis, ouais, voilà, c'est une façon de vivre un peu particulière. Quoi.
Alors là, il y a des petits bruits d'un flan pâtissier qu'on a fait pour vous. Enfin, Yves Cordebord a fait pour vous.
Ah, mais c'est ma passion.
Ben, on sait bien, c'est
oh
pour
là
ça.
Là là.
On va en parler dans un instant. Mais alors, justement, avant de parler de cette passion, quel est votre goût de la semaine, Maurice Barthélémy ?
Eh bien, justement, j'ai vu passer des Mirabelles. Et les Mirabelles, moi, c'est toute mon enfance. Ma grand-mère était Lorraine et elle faisait des confitures de Mirabelle. Et alors là, j'ai eu une Madeleine de Proust qui m'est arrivée, boum, comme ça.
On est en plein dans la saison. Hein,
ouais.
Parce qu'on parlera de vos origines tout à l'heure, c'est passionnant. Parce que hein, vraiment, vous êtes une belle addition, comme disait Romain Gary.
C'est ça.
Alors, vous avez une passion, on vient de le dire, pour le flan.
Oui.
Vous êtes fan de flan ?
J'adore le flan depuis toujours. Quand je sortais de l'école, j'allais chercher ma part de flan chez la boulangère dans mon village de Picardie. Et c'est encore aujourd'hui, et j'en fais un peu.
C'est ça, vous cuisinez le flan.
Ouais. Hein. Ouais. Alors... Avec un flan qui est très peu sucré et avec le moins de crème possible. Un flan très simple.
Et qui fait succès auprès de vos invités, j'ai l'impression, parce que vous aimez bien recevoir.
Ouais, j'aime bien recevoir, ouais, c'est mon côté un peu convivial. Merci beaucoup, elle est magnifique. Oh, oh là là là.
Alors, comme le burger dont on parlait tout à l'heure, le flan est très tendance, Yves Cordebord, et on va voir ensemble ce qui fait un bon flan pour nos auditeurs. Il est magnifique, ce spécimen. Hein. Vous pouvez le décrire, ah ouais. Tiens, regardez.
Il est un peu chaud, là, donc c'est extraordinaire. Et puis...
Alors, voilà. Il est pris, mais pas trop. C'est ça, la vraie astuce.
Il
reste crémeux, en fait.
Alors, on va revenir sur toutes les étapes. Hein. Yves Cordebord, c'est pas n'importe quel flan. C'est un flan de famille pour vous, ça. Hein.
Oui, c'est une recette vraiment familiale. Ma grand-mère, Marthe Cordebord, qui tenait l'hôtel du commerce à Navarinx, en avait fait sa spécialité. Et c'est vrai que le flan, la tarte au flan, c'est vraiment un dessert de cuisinier. Voilà. Alors, j'ai mon frère Philippe qui a repris la recette. La recette est un peu cachée et qu'il la réalise régulièrement à la charcuterie. Et j'ai eu droit de la divulguer.
Alors tiens, on va faire fonctionner vos cinq sens puisque ouais. Vous êtes un hypersensible. Mmh, mmh. Déjà au niveau de la vue, tiens, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, déjà, la pâte est extraordinaire. Et puis je sais pas comment on appelle
l'appareil, ouais, la garniture.
La garniture a une légère couleur, on sent qu'il y a de la vanille, non ?
Tout à fait. Alors, la première chose que vous dites qui est très intéressante, et c'est une des astuces pour ce flan, c'est la pâte.
D'accord. Voilà,
il est hyper important de la cuire à blanc. Qu'est-ce qu'on appelle cuire à blanc une pâte ? C'est la mettre dans un moule, en mettant dessus soit des lentilles, soit du riz, et la cuire au four. Et justement, il faut la cuire pratiquement un peu à l'excès, voilà, parce que ça va amener ce côté aussi un peu amer qui va amener la fraîcheur. C'est une des bases du flan. Après, la seconde, par rapport justement à la crème que... Vous voyez légèrement marbrée, elle est marbrée avec de la vanille. Là, c'est vrai que la vanille est un produit onéreux, mais on n'en met pas beaucoup, on n'en met que deux, donc ça ne coûte pas très cher. Et c'est vrai que l'important, c'est quand vous l'avez vu au départ, c'est que quand vous le remuez très légèrement, qu'il y ait ce côté un peu tremblotant. On a l'impression qu'il est au ralenti presque. Vous voyez, il y a la tranche qui va de gauche à droite.
C'est vrai.
C'est le bon équilibre. On dirait qu'elle va tomber, hop, mais non, elle se rattrape, elle revient.
C'est vrai.
Et c'est ça qui amène l'onctuosité du palais.
C'est ça.
On a une expression en Belgique, on dit ça wiggle waggle.
Ça wiggle waggle.
Et alors, c'est tremblotant.
Pour réaliser cette. C'est parce qu'on l'a fait en deux cuissons. En fin de compte, on va faire très simple, vous aurez la recette sur le site.
Oui, mais c'est important le
truc.
Ouais.
On fait une crème pâtissière,
ouais.
Voilà, qu'on laisse refroidir. Une fois qu'elle est froide, on la met dans la pâte qui est cuite. Et on recuit au four à 180 degrés pendant 30 minutes.
D'accord.
Et
donc cuite
hyper...
d'abord, refroidie,
voilà,
et recuite ensuite.
Et ça va permettre justement, juste au jaune, voilà, de faire la liaison et d'amener cette onctuosité et ce moelleux.
Je me régale.
Et la vanille, il a presque fini sa part de flan, ça fait plaisir. Ouais, on s'était bien renseigné, on savait. Hein,
c'est,
voilà.
C'est important aussi le choix de la vanille, c'est comme tout. Alors il faut prendre du lait entier, il faut prendre des œufs de ferme pour avoir le goût. Et la vanille, voilà, il faut aller chercher une vanille. La plus belle pour moi, c'est la vanille de La Réunion. C'est une vanille voilà, qui est onctueuse et qui a surtout de la longueur de bouche et qui amène cette onctuosité aussi, ce petit, ce petit marbré qui visuellement est très important.
C'est vrai qu'on mange avec les yeux aussi. Ouais. Et la recette est magnifique, on la retrouvera, hein, chers auditeurs, sur le site europe1.fr.
Merci vous d'avoir accepté de nous vendre cette recette de famille, c'est incroyable.
C'est un beau cadeau.
Normalement, ça se donne
c'est
jamais. Hein.
C'est un beau cadeau. Vous validez donc, et il enfourne ses dernières bouchées.
Ah mais moi je suis mais aux anges.
ça fait plaisir. Fort comme un hypersensible. C'est la drôle de conférence de Maurice Barthélémy à partir du 17 septembre à la Pépinière Théâtre à Paris dans le 2e arrondissement.
À 19h.
À 19h, ouais, c'est un bon horaire, on peut aller manger après en plus. On continue, tiens, de se faire plaisir dans un instant avec un plat du jour exotique. De quel pays? Eh bien, vous le saurez après les titres d'Europe Weekend avec Thomas Lequertier qui arrive sur Europe 1. C'est dans un instant. Bon samedi midi sur Europe.
Vous mettez 10 grammes de sel par litre d'eau.
Je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles.
Et des fraises, bien sûr.
Europe 1,
hyper simple.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
On envoie les tomates farcies. Allez.
Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est la rentrée sur Europe 1 et la table des bons vivants est de retour. Quatrième saison, merci pour votre fidélité les amis. Nous avons dégusté des huîtres sur le bassin d'Arcachon, nous avons débattu autour de la folie des burgers et nous revoilà avec notre invité. Fort comme un hypersensible, c'est Maurice Barthélémy qui sera à la Pépinière Théâtre avec sa drôle de conférence à partir du 17 septembre. On est encore sur le flan pâtissier d'Yves Candebord. Hein.
Ah ouais, ouais, moi je j'ai toujours pas atterri. Hein.
Ça c'est l'hypersensibilité justement, vous dites, ça a complètement décuplé mes sens cette dégustation.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau de l'odorat, mais du goût et du toucher, enfin je suis toujours je démarre très vite quoi. Et c'est vrai que là, ça me met véritablement de bonne humeur, quoi. Je ne peux pas expliquer.
Heureusement qu'on ne s'est pas trompé de recette. Ouais, hein. Dis donc. Sinon, c'était l'enfer dans l'autre sens.
En fait, vous vivez pleinement les choses, en fait.
Pleinement, parfois trop pleinement.
Trop pleinement.
C'est tout le problème. C'est-à-dire que moi, j'essaye au quotidien d'éviter les agressions. Parce que là, je vis un moment extraordinaire. Mais je peux aussi être agressé par une odeur trop forte dans le métro, par quelqu'un qui porte un parfum qui est beaucoup trop puissant pour moi. Donc je navigue entre plein d'émotions dans une journée.
Les lumières, les
lumières,
sons.
Les sons. Oui.
La vue, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, comme on dit?
J'ai des lumières trop fortes. Par exemple, quand je rentre dans une chambre d'hôtel, je baisse tout le temps les lumières. J'ai tendance à mettre des t-shirts sur les lampes de chevet parce que c'est trop fort. Ouais, les lumières.
Alors moi, je suis peut-être. On va tous se redécouvrir hypersensible. Hein. Non, mais on a tous, en tout cas, peut-être une pointe d'hypersensibilité.
Ouais,
c'est
ouais,
ça
ouais,
aussi.
Mais ça m'étonnerait pas. Dans les métiers qu'on fait, on en parlait hors antenne, aussi bien dans la cuisine que dans la communication, je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles.
On va parler un petit peu de vos origines, parce que c'est passionnant là aussi. J'ai appris que vous étiez né en Bolivie en préparant cette émission.
À La Paz, oui. Mes parents étaient en poste, ils étaient diplomates à l'époque et je me suis retrouvé là-bas. Ouais.
Et votre papa, il a changé de métier en plus.
Oui, mon père était diplomate, il est devenu menuisier. En fait, il a eu un moment où il en avait assez de la diplomatie et il est rentré en formation professionnelle à Laon, dans l'Aisne, et il est devenu menuisier sur le tard.
Eh oui, on dit qu'on peut avoir quatre vies aujourd'hui, quatre métiers dans une vie. Là, il avait déjà commencé, effectivement.
C'est ça, exactement. Bien avant tout le monde, c'était dans les années 75. Et donc,
on parle beaucoup de reconversion aujourd'hui. Mmh. Et vous avez des racines haïtiennes du côté de votre maman, c'est
exactement,
ça?
Exactement, ma mère était d'Haïti. Et donc, moi, j'ai la double nationalité que j'ai pris, à la mort de ma mère. Et aujourd'hui, évidemment, je suis très affecté par ce qui se passe dans ce pays qui cumule les drames.
Les drames.
Mais, effectivement, et je les revendique, hein, mes origines haïtiennes qui ne se voient pas, mais je les revendique.
Vos parents vous ont transmis le goût des bonnes choses, le goût de cuisiner?
Alors, curieusement, non. Ils ne cuisinaient pas trop. Mon père cuisinait pas beaucoup. Ma mère faisait plutôt à manger pour les amis. Mais pas au quotidien pour nous. Et donc c'était plutôt des gens qui mangeaient un peu parce que il fallait manger. Mais moi je suis un peu en rupture avec ma famille, parce qu'au bout d'un moment j'ai dit non, moi je veux vraiment profiter quoi.
Qu'est-ce que vous aimez manger, vous? Quels sont les plats, les parfums, les saveurs qui vous emportent comme ça, à part le flan pâtissier d'Yves Candebord?
J'aime le mélange des cultures. C'est-à-dire que je peux à la fois manger un bœuf bourguignon et en même temps, en entrée, manger une salade thaï. C'est-à-dire que j'aime avoir plein de saveurs dans un même repas. Quoi.
Ah bah alors ça tombe bien, je pense aussi, parce que c'est l'heure du plat du jour. Maurice Barthélémy et chers auditeurs, ça va vous parler, le plat du jour. C'est un wonton. Ça vous parle, le wonton?
Ah oui,
Bien sûr.
Hein, c'est un plat qui a été fait par Adeline Grattard, qui est la chef du Yamcha à Paris.
Wow.
C'est un plat d'origine chinoise. Hein, c'est de la famille des dim sum, vous savez, ces raviolis chinois cuits à la vapeur. Oh, voilà. Et elle vient de vous le faire, Adeline Grattard.
Extraordinaire, merci beaucoup.
Et on vous l'apporte actuellement.
On est gâté
hein, aujourd'hui.
Pour une rentrée. Et si on monte en puissance au cours de l'année, mais qu'est-ce que ça va être, Jean-Laurent?
C'est un bon
allons-nous nous arrêter?
C'est vrai qu'on a eu le burger de Yannick Aleno, le burger de père et fils qui était avec nous. On les a dégustés, ils étaient délicieux. Le flan pâtissier d'Yves Candebord. Et maintenant, nous avons ce wonton d'Adeline Grattard.
Si je puis me permettre, dans l'ordre, on est quand même un peu chaotique. Hein, parce que sortir du flan pâtissier et retourner au wonton, bon, je ne sais pas qui a fait le conducteur de cette émission.
C'est vrai.
Mais franchement, c'est un peu n'importe quoi.
C'est le plat du jour, mais on voulait séduire tout de suite Maurice Barthélémy avec quelque chose qui le mette en confiance. C'est pour ça, mais c'est bien vu. Et Adeline Grattard est avec nous au téléphone, et c'est gentil parce que c'est l'heure du coup de feu au Yamcha. Bonjour Adeline Grattard.
Bonjour, bonjour. On n'a pas encore commencé, on attend bonjour, on attend les premiers clients, mais on est prêts. On a juste les dernières cuissons. Je suis en train de rôtir du porc sucré pour le plat du jour au Yamcha, et au Laicha qui sera le char siu, le boban de char siu et aux crevettes.
Magnifique. Alors voilà. Oui, vous avez Yamcha qui est votre restaurant gastronomique à Paris dans le centre, et vous avez Laicha qui est juste à côté, on va dire, de la sortie pour les Parisiens du Forum des Halles de l'UGC Ciné-Cité Les Halles pour ceux qui vont au cinéma. Et après, on passe chez vous justement manger de belles choses, dont ces wonton. Racontez-nous ce qu'est le wonton alors.
Exactement. Alors, le wonton, ça vient de Hong Kong. Et c'est un mélange de porc-crevette, principalement crevette, avec un petit peu de porc, avec du bambou, des oignons, de la ciboulette, du gingembre. On façonne cette farce, on la plie dans une feuille de pâte avec... où il y a des œufs de crevettes dedans, et on fait une petite bourse. Et c'est ça qu'on appelle le wonton. Et c'est un ravioli qui est poché, ce n'est pas une vapeur, et on le sert dans un bouillon ou alors avec une sauce comme je pense que vous allez déguster maintenant.
C'est ce qu'on a, et justement Maurice Barthélémy, notre invité, l'hypersensible, trempote son wonton dans une petite sauce.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il en pense alors?
Et ben, il est ravi, et surtout cette petite sauce, elle est un peu sucrée salée, légèrement relevée, on est très très bien.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Alors, dites-nous.
Adeline. Alors, je ne sais pas quelle sauce a été choisie, parce qu'on propose trois sauces au choix. Est-ce que c'est une sauce à base de citron et de sauce soja?
Je pense. Tout à fait.
Parce que nous avons, en fait, quand on vient chez nous, on peut choisir les sauces. Donc, je ne sais absolument pas ce qui a été emmené ce matin.
Oui, j'ai trois sauces devant moi.
Il a les trois, mais
il a trois.
Oui.
C'est pour ça. Donc, on doit avoir certainement une sauce au poivre, une sauce au citron. Gingembre et puis une sauce pimentée, non?
Ça doit être ça, exactement.
Bon, après, c'est selon les goûts. Hein. Le wonton va très bien avec la sauce pimentée, va très bien avec le citron. C'est un ravioli qui est fin, qui n'a pas...
Ah oui,
on vous le confirme.
Adeline, moi qui ai eu la chance d'aller en Chine et à Hong Kong assez régulièrement, j'ai mangé évidemment ces ravioles et je dois vous dire que les vôtres sont aussi bons que ceux qu'on mange là-bas.
Oh, merci
beaucoup. Qui est rarissime en France. Et c'est essentiellement dû à la qualité de la pâte. En France, on mange des vapeurs ou des wonton ou des raviolis avec des pâtes trop épaisses. Vous mangez que de la pâte et rien à manger à l'intérieur. Et là, il y a un équilibre sur la pâte et sur la garniture qui est incroyable et qui est au niveau de ce que j'ai mangé à Hong Kong. Bravo, bravo.
Merci.
Vous avez beau.
Aux qualités de ce qu'on met dedans et on farcit bien nos raviolis. On a 5 sortes de raviolis au Laicha.
Adeline, voilà. Adeline, ouais. la farce est faite avec la pâte est faite à base de farine de riz.
Non, de blé.
Ouais.
Vous avez longtemps cuisiné en Chine, hein, donc c'est pour ça que vous avez aussi cette expérience. Votre mari est chinois et vous avez fait les premiers à Paris, en presque on peut dire, justement, les accords thé et plat au restaurant, les accords mété au restaurant.
On a commencé il y a 12 ans et effectivement, on est arrivé avec ce concept qui venait de une idée complètement spontanée et on s'est mis à accorder nos plats avec du thé. C'est vrai qu'il y a 12 ans, bon, c'était un petit peu novateur, même si on n'a rien inventé, mais on surtout en restaurant gastronomique.
Eh ben merci Adeline Grattard d'avoir été avec nous au téléphone, d'avoir pris le temps avant justement le coup de feu. On vous retrouve au Laïcha, justement, 7 rue du Jour, dans le premier arrondissement, et puis au Yamcha à Paris, dans le centre. Et on vous mettra une version simplifiée des Vonton pour que vous puissiez les refaire sur Europe1.fr. Hein, Maurice Barthélémy, vous allez les refaire?
Bien sûr, je vais m'y mettre directement.
Alors, un flan pâtissier à faire, des Vonton, ça vous a plu?
C'est magnifique, vraiment, c'est extrêmement léger. Et très délicat.
On vous laisse vous mettre au point, puis on vient manger chez vous.
On va se mettre justement à l'heure du vin avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls dans un instant. Les vendanges démarrent bientôt. On va en parler parce qu'on a plein de bons plans pour vous, chers auditeurs.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire et puis bon appétit si vous êtes à table. Nous sommes avec Maurice Barthélémy ce samedi pour la rentrée des bons vivants, auteur, comédien, réalisateur. Il est venu prendre des forces avant sa conférence comédie fort comme un hypersensible au théâtre de la Pépinière à Paris. Ça démarre le 17 septembre. On a fait le flan pâtissier d'Yves Candebord, les Vonton d'Aline Grattard. Eh bien, on va passer maintenant au vin d'Olivier Pouls. Ça compte dans votre vie, le vin, Maurice Barthélémy?
Énormément. Moi, je suis souvent en Espagne et il y a des vins extraordinaires en Espagne qui sont assez peu connus en France. Et donc oui, très très important.
Charpenté, tannique, mais je crois que même votre hypersensibilité dont on parle depuis avant midi vous permet au restaurant souvent d'être le seul de voir si
si un vin est bouchonné.
C'est ça, c'est un problème.
C'est-à-dire que je vais tout de suite le repérer et je passe généralement pour un emmerdeur parce que je repère tout de suite quand il y a un léger goût de liège et même si c'est passable pour moi, je vais le relever. Ouais.
Vous savez, on a tous des niveaux, des seuils de perception de ces défauts, de ces qualités du vin, et on peut les mesurer aujourd'hui. Vous savez, on fait des essais, on prend des verres d'eau dans lesquels on dilue de manière de plus en plus fine l'arôme du goût de bouchon. D'accord. Et on voit à partir de quel moment certaines personnes sont capables de l'identifier ou pas. D'accord. Et on a des seuils différents, et vous avez probablement un seuil très bas. Et c'est un peu handicapant parce que souvent vous repérez le truc, les autres autour de la table vous disent « Non mais moi je sens pas, il n'est pas bouchonné ». Mais en fait, et une fois que vous l'avez senti, c'est rédhibitoire, vous ne pouvez plus le boire.
Exactement, et on le sent aussi à l'odeur, hein. C'est puissant aussi.
Ouais. Alors avant de boire du vin, il faut commencer par le faire, et c'est justement la saison des vendanges qui débute en ce moment. On en plein dedans, Olivier Pouls, en plein
commence,
début.
Les premiers coups de sécateur ont commencé, puis on va aller probablement jusqu'à la fin du mois d'octobre, on va voir la météo, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais oui, le vignoble français est dans les starting blocks, et puis figurez-vous que si vous êtes disponible, si vous ne savez pas très bien quoi faire pendant les semaines qui viennent, pourquoi n'iriez-vous pas vendanger? Vous l'avez déjà fait, Laurent, d'ailleurs.
Je vous avoue que non, et je me suis promis de le faire cette année au domaine Albertmann, en Alsace.
Yves, est-ce que vous êtes allé vendanger?
Oui, j'ai vendangé en Corse, j'ai vendangé à Jurançon et j'ai vendangé en Loire.
Ouais, et vous, Maurice, vous avez déjà coupé le raisin? C'est une aventure quand même.
Ouais, c'est une expérience humaine assez extraordinaire. Ouais. Et après, je vous assure, Olivier, vous respectez le vin.
Exactement. Vous ne le buvez plus jamais de la même manière.
On voit pas la même façon.
On peut tous participer à ces vendanges?
Oui, alors il suffit d'avoir du temps, on peut s'inscrire. Beaucoup, beaucoup de domaines aujourd'hui recherchent des vendangeurs, parce qu'habituellement, ils ne trouvent même pas suffisamment de main-d'œuvre en France, qui font appel à de la main-d'œuvre étrangère, espagnole, ou des pays de l'Est. Avec le Covid, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc oui, il y a une demande énorme. Si vous avez du temps, un peu d'énergie et une bonne santé, parce qu'il ne faut pas se la raconter, c'est quand même assez physique, la vendange. Allez-y, présentez-vous, vous allez vivre une aventure extraordinaire.
Alors comment on fait? Il reste des places, on va où?
Ah, il reste plein de places. Alors soit sur les réseaux sociaux, vous avez des domaines qui font directement des appels. Vous pouvez contacter les ANPE locales ou les bureaux d'intérim, ils ont toujours éventuellement des petits plans à vous donner. Il n'y a pas besoin de formation, on va vous former rapidement sur place. Alors peut-être que vous, on vous mettra Cooper, hein, parce que vous êtes bien en forme, donc vous aurez le sécateur à la main. Yves, un peu plus costaud, on va lui mettre le panier dans le dos. Et puis peut-être que Maurice, on le mettra à la cuverie pour le tri des raisins. Bref, il y a plusieurs métiers à faire pendant ces vendanges qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Et puis ça permet vraiment de s'immerger dans un domaine, de comprendre comment finalement le vin arrive dans la bouteille et dans le verre.
Et la revue du vin de France à laquelle vous collaborez justement aussi
On se fait le relais sur les réseaux sociaux des demandes, des domaines qui cherchent des vendangeurs. Alors c'est pas très bien payé, mais franchement c'est une ambiance hyper conviviale. Dans certains domaines, on vous nourrit, on peut même vous loger. Et puis je peux vous dire qu'à la fin des vendanges, il y a ce qu'on appelle le banc des vendanges. Et rien que pour ça, il faut y aller. On ira au banc des vendanges ensemble.
Il a l'air intéressé, Boris Barthélémy.
Oui, hein, parce que toute expérience que je ne connais pas m'intéresse. Donc, ouais,
bah, ça... Écoutez, laissez-moi votre CV, on va organiser ça, il n'y a aucun problème. Hein.
Oui, vous iriez dans quelle région alors ?
Moi, j'aime beaucoup les vins du Languedoc. C'est-à-dire que j'ai tourné beaucoup dans la région au-dessus de Montpellier, l'Odève. Et là, il y a des coteaux du Languedoc, ouais, absolument divins, Larzac, sur les plateaux du Larzac, ouais, etc.
Donc, les terrasses du Larzac, ouais, voilà, on a de très très jolis vins, un petit Pic Saint-Loup, de exactement, belles choses. Voilà, ouais, ouais, bah, voilà. Ouais, ouais,
tout. Et là, je vous fais découvrir un vin de Loire qui s'appelle le Jour de Soif, une cuvée gourmande que j'avais apportée justement pour le hamburger. Je trouve que ça marchait plutôt pas mal. Un petit bourgueil tout simple, croquant, du domaine Gautier que j'aime beaucoup.
Eh bien, on y revient juste après avoir écouté Trois Vagues et les plages Dunkerque sur Europe 1. Bon samedi midi.
Sèvres qu'on s'enlise, oui, Sèvres qu'on s'emmerde. Il y a toujours une crise qui nous met en échec. Tu fais ta valise, où est-ce que tu m'emmènes? Voir la tour de Pise ou les plages de Dunkerque. Je voudrais pas qu'on s'oublie sous un tas de colère. Je voudrais pas qu'on se plie, qu'on fasse tout de travers. Je voudrais pas qu'on se split sur les deux hémisphères. Je veux qu'on mette sur repeat sans revenir en arrière. Voltige, pas des virées en solex. Je voudrais du prestige, je veux voir Los Angeles. Je voudrais pas qu'on s'oublie sous un tas de colère. Je voudrais pas qu'on s'oublie, qu'on fasse tout de travers. Je voudrais pas qu'on se split sur les deux hémisphères. Je veux qu'on mette sur repeat sans revenir en arrière. On s'est en foutu de coups. Si on reste à genoux, comment tenir debout? Je voudrais pas qu'on s'oublie sous un tas de colère. Je voudrais pas qu'on se plie, qu'on fasse tout de travers. Je voudrais pas qu'on se split sur les deux hémisphères. Je veux qu'on mette sur repeat sans revenir en arrière.
C'est bien ça, c'était Trois Vagues sur Europe 1. Bon samedi midi, ça vous a plu Maurice Barthélémy?
Oui, beaucoup, beaucoup.
Dernier tour de table avec Maurice Barthélémy ce samedi. Vous partagez votre vie entre la France et l'Espagne, hein, vous nous
oui,
dites, c'est ça?
Oui, j'y suis très, très souvent, j'ai une maison en Andalousie. Et j'ai découvert toute la cuisine andalouse, les vins andalous, c'est un pays extraordinaire.
Et vous avez même un petit verger, je crois.
Exactement, j'ai des orangers, des citronniers, il y a des figuiers.
C'est le jardin d'Eden là-bas. Moi, j'y suis allé à cette saison. Les avocats, les grenades, les mangues, figues de Barbarie.
Les papayes. Ouais, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce que vous cuisinez? On cuisine pas la même chose que quand on est au pays, j'imagine, là-bas.
Non, c'est vrai. Non, mais pour le coup, je suis pas un grand cuisinier, je fais des choses assez simples. Rien que des fruits découpés, moi, ça fait mon bonheur.
Quand ils sont bons.
Quand ils sont bons, évidemment.
Oui, vous avez une passion pour les mangues et...
Oui, les mangues, les papayes, c'est des fruits exotiques qui étaient là dans mon enfance en Haïti. Et donc, ça m'a marqué.
Ah, ben voilà pourquoi vous retrouvez un petit peu ces racines là-bas en Andalousie. C'est vrai que c'est une très belle terre, hein, l'Andalousie. On va justement vous découvrir maintenant en vous passant sur le grill des bons vivants. Regardez ce petit bruit, l'hypersensible. Il aime ce petit bruit. Quel est le goût de votre enfance, Maurice Barthélémy?
Ah, vous savez, les bonbons, les soucoupes à la poudre, vous voyez, avec un goût un peu acidulé, quoi.
Ça pique, ça. L'hostie, les hosties.
L'hostie, voilà, exactement.
Le carton, en fait.
Ah, c'était extraordinaire, c'était de toutes les couleurs.
Coloré, il y en avait des bleus.
Exactement.
Ah oui, c'est vrai, donc, très acidulé, une poudre qui était...
Ça ressemble à du carton.
Ouais, c'est pas les cordons, c'est l'hostie.
L'hostie. Amen. Le premier plat que vous avez cuisiné?
C'était des raviolis en boîte. Hein. À l'époque, j'étais seul. Je vivais à 14 ans ou 15 ans seul. Donc, voilà.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
C'était un bœuf bourguignon en haut des pistes à Serre-Chevalier. J'étais en tournage pour des publicités. Et en fait, rien que il était correct, mais c'était le fait de manger un bœuf bourguignon chaud en haut des pistes.
Et vous en avez réalisé des publicités, plus de 100 publicités, je crois, en tant que réalisateur.
Ouais, c'était pour les 118.
C'est ça, les fameux. Votre pire repas, Maurice Barthélémy?
Alors, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était dans la brousse, au Congo, Kinshasa. Et en fait, les cuisinières, j'étais parti faire un documentaire sur les chimpanzés, et les cuisinières ont oublié de nous faire à manger, donc on n'a pas mangé pendant 48 heures.
Ah oui, donc
c'est un pire repas qui n'en est pas un, en fait.
C'est ça, c'est l'absence d'un repas.
C'est une diète. Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte?
Alors, bon, je vais faire un peu de pub, mais c'est le Paris-Brest de la pâtisserie des rêves. J'ai une passion pour le Paris-Brest.
Créé par Philippe Conticini. C'est plus lui, mais c'est lui qui l'a créé, ce
Paris-Brest.
Exactement,
sublime.
Alors, il faut le décrire pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il l'a revisité, on dirait des petits choux, en fait. Hein.
Exactement, avec une pâte pralinée extraordinaire. C'est extrêmement léger et c'est divin.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer?
Alors, c'est la chaussure de Charlie Chaplin dans La ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'il paraît qu'elle était en fait faite en réglisse. Et ça m'a toujours fasciné, moi, cette séquence. J'ai une passion pour Chaplin. Et donc,
C'est très poétique, en plus, cette séquence. Oui, parce que c'est ça, ils mangent chez Godasse.
Ils sont tellement pauvres qu'ils mangent leur Godasse. Ouais.
Il les fait cuire, je crois, même.
Oui, il les fait cuire, exactement.
Il fait cuire ses chaussures.
Exact.
Votre plus grand raté en cuisine, Maurice Barthélémy?
C'était un bœuf bourguignon. Le raté, c'était une quiche lorraine. Et j'avais oublié la pâte. je me suis dit, il manque un truc. Ouais, c'était une sorte de flan, un flan salé, mais pas très intéressant.
Votre plus grand succès en cuisine?
Donc un flan, là pour le coup. Mmh. Un flan que je fais, très peu sucré, et avec très peu de crème aussi. Bref, j'aime beaucoup.
On a écouté 3 vagues là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous cuisinez, votre bande originale?
J'aime bien la musique de la soupe aux choux. Vous voyez, ça me rappelle tellement l'enfance. Ouais, et puis il y a une musique qui donne tellement la patate. Et donc, voilà.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Ça serait des hypersensibles. Ça pourrait être Passard pour sa capacité à faire les légumes. Ça pourrait être Thomas Pesquet qui nous raconterait un peu les étoiles. Cléopâtre d'Arleux, qui est la gardienne de l'équipe de handball française, qui est incroyable en interview. Yannick Noah, parce que c'est quelqu'un de très connecté.
Parce qu'il a gagné Roland-Garros.
Et qu'il a gagné Roland-Garros et qui, en plus, à chaque fois il touche quelque chose, il le réussit. Isabelle Nanty, parce que c'est un peu ma marraine. Et puis Brigitte Macron, parce que je trouve que c'est une personne assez humaine.
Et le mot de la fin, FAIM?
N'oublions pas ceux qui ont faim tous les jours.
Absolument, et ils sont nombreux. Merci Maurice Barthélémy.
Merci Laurent, merci à vous tous.
Fort comme un hypersensible, votre drôle de conférence à partir du 17 septembre à la Pépinière Théâtre à Paris, dans le 2e arrondissement. Eh bien, on y sera, Maurice.
Avec plaisir.
Merci d'être passé par le studio Coluche. Merci Yves Candebord.
Merci.
Salut Olivier Pouls. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot à la rédaction en chef, Julien Amat et Marion Sauveur à la rédaction, Claire Dutronc à la programmation, Loïc Vimard à la réalisation, soutenue pour la vraie dernière aujourd'hui de Jean-Luc Arblade, Jean-Luc Arblade national qui nous a dit au revoir la semaine dernière et qui part taquiner le goujon. Il a la musette et l'épuisette déjà à côté de lui. Bonne continuation mon Jean-Luc. Chaque dimanche, c'est un nouveau rendez-vous maintenant auquel je vous convie. On va se retrouver demain à la table du dimanche de 11h à 12h30 et je serai avec Sheila qui sera la marraine de cette première émission, un chef cuisinier, des invités surprises, le critique gastronomique Emmanuel Rubin seront de la partie et on va passer le temps de découvrir un invité avec la belle table du dimanche, comme un déjeuner du dimanche en famille à la maison. Et d'ici là, on se retrouve sur europe1.fr pour le podcast et les recettes. Merci de votre fidélité les amis, c'est le flan pâtissier, j'aurais pas dû en manger tout de suite. Dans un instant, c'est Europe Midi Weekend avec Thomas Lequertier. Salut, à samedi et à demain.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.